Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié initialement en 1990 et repris ici dans une édition de poche, Soi-même comme un autre est un essai philosophique majeur de Paul Ricoeur. Issu des J4 lectures prononcées à Édimbourg, il examine une question apparemment simple mais décisive que signifie être soi. Ricoeur refuse à la fois l'image d'un sujet souverain, transparent à lui-même, et la dissolution complète du sujet dans les déterminismes ou les discours. Il propose une herméneutique du soi, selon laquelle chacun se comprend indirectement à travers ses paroles, ses actes, les récits de sa vie, ses engagements et ses relations. Les 10 études du livre font dialoguer philosophie analytique, phénoménologie, théorie du récit et philosophie morale. Leur mouvement conduit de la description du langage et de l'action vers une réflexion sur l'identité, la responsabilité et la justice. L'ouvrage formule ainsi une conception relationnelle de la personne, pour laquelle devenir soi implique toujours la rencontre d'autrui et l'inscription dans des institutions justes. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, distinguer identité idem et ipséité pour penser la continuité personnelle, le point d'entrée conceptuel de l'ouvrage est la distinction entre deux sens de l'identité. Les identités idem désignent la mêmeté, ce qui permet de reconnaître une personne comme la même au fil du temps grâce à des traits relativement stables, à son corps, à son caractère ou à des signes administratifs. Cette dimension est nécessaire, mais elle ne suffit pas à comprendre une existence humaine. L'identité ipes ou ipséité renvoie à la capacité d'une personne à répondre de ses actes, à tenir une promesse et à se reconnaître comme l'auteur de son histoire malgré les changements qui l'affectent. Ricoeur montre ainsi qu'une personne peut évoluer profondément sans cesser pour autant d'être elle-même. Le maintien de soi ne repose pas seulement sur la conservation de propriétés identiques, mais sur une fidélité active à certaines paroles données et à certaines responsabilités. Cette distinction évite deux impasses: concevoir l'identité comme une essence immobile, ou croire que tout changement détruit nécessairement la continuité personnelle. Elle donne également une portée éthique à la question de l'identité. Être soi n'est pas constater une permanence objective, mais assumer une parole, des choix et leurs conséquences dans le temps. L'identité devient donc une tâche interprétative et pratique plutôt qu'un simple fait psychologique ou biologique. Deuxièmement, l'identité narrative relie le changement vécu à la responsabilité. Ricoeur accorde au récit une fonction structurante dans la compréhension de soi. Une vie ne se présente pas spontanément comme une histoire cohérente, elle comprend des événements dispersés, des habitudes, des ruptures, des décisions et des conflits. Le récit met ces éléments en relation sans les réduire à une causalité mécanique. En racontant une vie, on organise une temporalité, on identifie des tournants et on relie une situation présente à un passé interprété ainsi qu'à un avenir envisagé. Cette identité narrative fait médiation entre la mêmeté et l'ipséité. Elle explique comment un individu demeure intelligible à travers les transformations de son caractère, de ses projets ou de ses relations. Toutefois, Ricoeur ne présente pas le récit comme une invention arbitraire de soi. Les récits sont confrontés aux actes accomplis, aux témoignages des autres, aux promesses tenues ou trahies et aux contraintes de la réalité. Ils peuvent donc être corrigés et contestés. Cette idée est essentielle pour penser la responsabilité. Celui qui raconte son action ne se contente pas de produire une image valorisante, il se situe comme agent imputable. Le récit permet aussi de comprendre pourquoi les identités personnelles et collectives sont fragiles. Elles dépendent d'interprétations discutables, mais ne sont pas pour autant dépourvues de continuité ni de portée morale. Troisièmement, du sujet agissant au sujet capable de répondre de ses actes, avant d'aborder directement l'éthique, Ricoeur analyse les médiations par lesquelles le soi devient accessible parler. Agir, raconter et se voir attribuer une action. Cette démarche s'oppose à la recherche d'une connaissance immédiate du moi. Le sujet ne se possède pas comme un objet parfaitement transparent. Il se découvre dans ce qu'il fait et dans les significations publiques de ses paroles et de ses gestes. L'attention portée à l'action permet de passer de la question de ce qui arrive à celle de qui agit. Cette transition est décisive, car la responsabilité ne porte pas sur un événement abstrait, mais sur l'imputabilité d'une action à une personne. Ricoeur dialogue ici avec la philosophie analytique, notamment sur la référence aux personnes et l'attribution des actions, sans abandonner son projet herméneutique. Il cherche à décrire un sujet capable plutôt qu'une substance isolée. Cette capacité comprend la puissance d'initiative. Mais elle est inséparable de limites, le sujet agit dans un monde déjà constitué, subit les effets de son corps, dépend d'autrui et ne maîtrise pas entièrement le sens de ses actes. L'agent responsable est donc ni omnipotent ni dissous dans les déterminismes. Cette position rend possible une conception nuancée de l'autonomie, comprise comme exercice fragile de la responsabilité plutôt que comme indépendance absolue. Quatrièmement, la petite éthique articule vie bonne, sollicitude et institutions justes. Le centre normatif du livre est la formule de la visée éthique, vivre bien, avec et pour autrui. dans des institutions justes. Chaque terme corrige une réduction possible de l'éthique. Vivre bien renvoie à la recherche d'une vie accomplie et à l'estime de soi, dans une inspiration aristotélicienne. Mais cette aspiration ne peut devenir un égoïsme, car elle implique la sollicitude, c'est-à-dire la reconnaissance de l'autre comme personne digne d'attention et de réciprocité. Enfin, la relation de face à face ne suffit pas à régler les rapports avec la pluralité des inconnus, les institutions sont nécessaires pour organiser la justice et l'égalité. Ricoeur refuse donc de choisir entre une morale centrée sur le bonheur individuel, une éthique du seul devoir ou une théorie politique détachée des relations concrètes. Il relie ces trois niveaux sans les confondre. L'estime de soi trouve un prolongement dans l'estime mutuelle, tandis que la justice traite des relations où l'autre est aussi un tiers anonyme. Cette construction donne une profondeur politique à l'éthique. Les règles et les institutions ne sont pas de simples contraintes extérieures, elles constituent les conditions d'un vivre ensemble où chacun peut être reconnu comme sujet de droit et de responsabilité. En dernier lieu, normes morales et sagesse pratique face aux conflits concrets, Ricoeur distingue la visée éthique de la norme morale, tout en refusant de les opposer définitivement. La visée de la vie bonne a une priorité dans l'ordre du sens, elle exprime ce vers quoi l'action tend. Mais la norme morale devient indispensable lorsque la violence, l'injustice ou l'instrumentalisation d'autrui menacent la réciprocité. Le dialogue avec Kant permet à Ricoeur de souligner la force de l'obligation, de l'universalisation et du respect dû à la personne. Toutefois, une règle générale ne résout pas mécaniquement toutes les situations. Des obligations légitimes peuvent entrer en conflit et l'application littérale d'une norme peut manquer son intention de justice. C'est pourquoi l'ouvrage accorde une place centrale à la sagesse pratique, héritière de la phronésis aristotélicienne. Elle ne désigne ni un compromis opportuniste, ni une permission de s'affranchir des principes. La lecture demande de la patience, car Ricoeur traverse de nombreuses traditions et ne transforme pas ses concepts en recettes immédiatement applicables. En retour, elle fournit des distinctions durables pour analyser des questions souvent simplifiées, comment changer sans devenir étranger à soi, comment attribuer une action à quelqu'un, comment concilier autonomie et dépendance, ou comment juger lorsque les règles entrent en conflit. Son bénéfice intellectuel tient moins à une réponse définitive sur le sujet qu'à une méthode de pensée. Le soi y apparaît comme réalité interprétable, capable et vulnérable, constituée dans le rapport aux autres plutôt que close sur elle-même. Par rapport à des essais centrés uniquement sur la conscience, la psychologie de l'individu ou les principes abstraits du devoir. Ce livre se distingue par son architecture de médiation. Il relie langage, action, récit, promesse, sollicitude et institution dans une même enquête. Il évite ainsi autant le culte d'un moi souverain que l'effacement du sujet. Cette synthèse entre herméneutique, philosophie de l'action et éthique pratique explique sa place durable dans la philosophie contemporaine. Pour un lecteur non spécialiste, une lecture accompagnée, sélective et progressive des études peut rendre l'ouvrage beaucoup plus accessible. Si vous souhaitez soutenir Paul Ricoeur, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.